Bienvenue sur Radio Craponne pour cette émission traditionnelle maintenant du mardi à 12h30, Histoire de France et d'ailleurs, en compagnie de René-Joseph Irmana qui consacre une longue page à ce Second Empire puisqu'on va en parler encore aujourd'hui et ce sera le quatrième épisode du Second Empire. On va retrouver tout de suite René-Joseph pour nous parler de ce Second Empire. René-Joseph, bonjour.
Bonjour. Donc, nous en sommes à la quatrième émission sur le sujet du Second Empire. C'est une espèce de cycle, donc parce que c'est une période, je pense, méconnue. Donc, on avait parlé de Napoléon III, son portrait, enfin son entourage. Dans la première émission, la famille impériale, son mariage, ses proches. Et puis j'avais parlé notamment dans la dernière émission, c'était les deux premières émissions, le tableau un petit peu du Second Empire, et on y reviendra d'ailleurs dans la dernière, la prochaine. Et puis j'avais parlé dans l'émission de mardi dernier, donc des expéditions, les guerres extérieures, notamment la campagne d'Italie, puisque Napoléon III a eu sa campagne d'Italie, moins prestigieuse que celle de son oncle, certes, mais bon, avec quelques victoires, Solferino, Magenta par exemple, campagne pour l'indépendance de l'Italie, libérer la botte italienne, constituée à l'époque d'une mosaïque de petits royaumes, dont les états pontificaux, et donc il était intervenu pour aider Cavour, et sous les ordres, enfin le premier ministre de Victor Emmanuel, pour, encore une fois, libérer l'Italie, qui était en quasi-totalité, disons, sous la botte autrichienne, en fait, sous l'autorité. Certains États, les États étaient, le royaume de Victor Emmanuel, Piémont, Savoie, Sardaigne, en fait, et qui était indépendant, et le reste de l'Italie était soit sous l'autorité directe, sous la botte autrichienne, c'était le cas de la Vénétie, donc de Venise, et de Milan, la Lombardie, carrément occupée, et puis les autres étaient sous la tutelle, les duchés, enfin, etc. On n'y revient pas. J'avais évoqué également l'expédition du Mexique, catastrophique, expédition du Mexique, et puis antérieurement aux deux précédents, de la guerre de Crimée contre la Russie, où là aussi ça avait été victorieux pour Napoléon III. Donc là je vais vous parler de la société du Second Empire, qui est donc marquée par la prospérité, il faut bien le dire. C'est une période prospère. Alors sous Louis-Philippe, sous son prédécesseur, il y avait eu la Troisième République, mais qui a duré de juin 48 à décembre 1851, et dont le premier président, le premier et unique, élu, donc fut donc Louis-Napoléon, le futur Napoléon III, que nous avons découvert au cours de ces émissions et que nous suivons. Et donc, sous Louis-Philippe, avant 1848, vous vous souvenez peut-être de cette phrase qui est restée célèbre de Guizot, c'était un régime bourgeois, c'était le roi bourgeois, enrichissez-vous. Mais là, sous Napoléon III, c'est toujours enrichissez-vous, mais aussi dépensez, investissez. Donc c'est 1870, c'est la période des grandes des investissements, c'est la période de l'industrie, le commerce se développe, c'est les affaires. Mais quand même, dans un sens, il y a toujours des dérives spéculatives, mais c'est aussi, surtout, un progrès de l'activité économique. On investit pour créer de l'activité, pour créer des emplois, l'argent circule. Donc c'est la période des capitaines d'industrie célèbres. Et soutenu, bien sûr, par Napoléon III, qui est, un socialiste avant la lettre, qui veut la prospérité, qui est soucieux du sort de la classe ouvrière, etc. Et il va soutenir tous ces grands investisseurs, les soutenir, les aider, les encourager. C'est le saint-simonisme. Alors c'est ça la doctrine de Saint-Simon. C'est une doctrine économique qui vise à dépenser l'argent, faire circuler pour créer de l'industrie. C'est l'époque de Polytechnique, c'est l'époque des ingénieurs, voilà. C'est la compétence technique. Donc, je l'ai dit, Napoléon y adhère totalement et favorise cette relance économique. Et nous verrons aussi qu'il y a eu des grands travaux. Le préfet Haussmann va carrément transformer Paris. Alors, j'ai envie de vous parler au début, avant de parler des hommes d'affaires, des frères Pereire et le Crédit Immobilier, qui vont innover carrément dans la banque et créer une banque moderne où l'argent circule, où on finance les entreprises. Voilà l'expérience des frères Pereire. Mais je vais vous parler peut-être au début en matière de commerce. Ça c'est beaucoup plus peut-être marquant, je dirais, dans l'époque. C'est les grands magasins, la naissance des grands magasins, avec la réussite de la famille de Boussicaut, Aristide Boussicaut. Vous avez peut-être vu ce film, un vieux film sorti en 43 d'André Cayatte, Le Bon Marché, Au Bonheur des Dames, qui a repassé dans les années 50-60, hein, c'est un classique, avec, je ne sais plus, Pierre Moisseur, Michel Simon, qui présente cette période. Donc c'est la naissance des grands magasins, et je vais vous parler de Aristide Boussicaut, hein, qui est ce père des grands magasins, et notamment le fondateur des supermarchés, ancêtre des grandes surfaces que nous connaissons actuellement, les hypermarchés, etc. À côté des Pereire, que je viens d'évoquer, j'en parlerai après dans la suite, des Schneider, des Talabot, et puis de Haussmann, ce super préfet, on va dire, qui transforme Paris sous l'impulsion directe de l'empereur. Et donc, Boussicaut. Alors, il naît à Paris en 1852. Donc, son père, plus modeste, hein, c'est une petite mercerie rue de Sèvres qui appartient à ses parents. Non, pardonnez-moi. Je me fouille, je prends mal mes notes et donc voilà, j'ai des difficultés et je m'en excuse. Donc je me reprends. Donc on focalise, disons, Paris 1852, petite mercerie du rue de Sèvres, un panneau affiche, on reprend toute la marchandise qui a cessé de plaire. Et alors là, c'était un panneau décisif, si vous voulez, c'est presque une révolution, et ça va lancer la carrière, encore une fois, de Boussicaut. Alors, qui est-il ? Aristide, il est né dans l'Orne, à Bellême, en 1810. Son père est chapelier, c'est une modeste boutique. En 1828, à l'âge de 18 ans, il prend son baluchon sur le dos, il se sent à l'étroit dans la modeste boutique de son père. Il devient marchand ambulant, associé à un confrère. Alors il vend dans sa haute, il suit les marchés, les foires, des laines, de la crétonne. Et là, il est observateur, il se forme sur le tas. Il devient un vrai commercial, comment dire aujourd'hui. Il trouve les techniques, il acquiert la psychologie du client. Il a les astuces, les petites ruses du métier. Et donc, il est bon, c'est un bon vendeur. Bon, mais son ambition est grande dès cette époque. Il a envie de réussir. 1835, il monte à Paris et il devient commis dans un magasin, le Petit Saint-Thomas, rue du Bac. Dans un magasin, c'est important. Il monte en grade, bientôt second commis, puis chef du comptoir des Châles. Et là, il fait la rencontre avec celle qui deviendra son épouse, Eugénie Marguerite Guérin. Alors là, c'est un petit restaurant, une crèmerie qui sert des repas modestes. Il y a un menu. Voilà, on sert des repas. Et donc, Aristide vient prendre ses repas à midi. Ça jouxte le Saint-Thomas, le magasin où il travaille. À l'époque, c'est des magasins spécialisés. Hein, c'est pas des... Il n'y a pas de variété, hein, donc je pense que là c'est du textile, enfin voilà. En mars 1839, donc ils vont se marier. Qui est Eugénie ? Elle a le prénom de l'impératrice, mais là c'est pas du tout le même milieu. Elle est d'une modeste origine, très modeste origine. Eh bien, elle naît à Verjoux, en Saône-et-Loire, en 1816. Sa mère est une fille mère, comme on disait autrefois, une pauvre villageoise qui est abandonnée par le père de l'enfant et méprisée, donc, comme on le sait à l'époque. Et pire, si on peut dire, elle devient orpheline à 12 ans. Elle perd sa mère. C'est presque Les Misérables, c'est presque Cosette. Et bientôt, elle est recueillie par un oncle porteur d'eau. Voilà, c'est vraiment la pauvreté. Elle entre comme apprentie chez une blanchisseuse. Mais on va la retrouver à Paris. Donc on la retrouve à Paris en 1839, au moment de la rencontre avec Aristide. À Paris, on a vu, elle ne fait pas le trottoir. C'est pas parce que, comme Aristide, elle est volontaire et ambitieuse. Hein. Elle est à ce moment, 1839, c'est sous Louis-Philippe, hein, c'est donc sous la monarchie de Juillet, elle a la gérance de cette crèmerie, elle a obtenu la gérance de cette crèmerie. Et donc, ils vont se marier et le couple va s'associer pour monter, dans la, vraiment monter pour la grande aventure du commerce. Hein. Ça sera l'ascension des deux. Et ça sera donc une aventure extraordinaire. Alors, notre histoire, je vais peut-être la poursuivre après la pause musicale. Donc, on se retrouve dans une poignée de minutes.